Bonjour à tous et bienvenue à ce 29e épisode du podcast À la coupe saison 2 qui vous est présenté par la microbrasserie Le Caveau des Trois Pistoles pour votre bière hockey. N'oubliez pas de penser à la bière Lamont Minou à la coupe. Également, je vous invite à nous suivre sur nos différentes plateformes. Attention, j'ai sorti mes talents de dessinateur juste en arrière ici. Et voilà, À la coupe sur YouTube, Twitter, ça c'est Spotify, TikTok et c'est ça, Facebook bien entendu, vous êtes déjà là. Je vous invite également à regarder la notif des sportifs à tous les mardis midi qui est animée par l'animateur Loric Salvaille qui nous déblatère un petit peu sur l'actualité du hockey en général et également de nous suivre sur le alacoupe.ca. Cette semaine sur alacoupe.ca, entre autres, notre chroniqueur Anthony Saint-Amand nous a fait un petit portrait de Adam Fantilli à la question où est-ce que son championnat du monde senior a influencé son rang projeté en vue du prochain repêchage? Alors, c'est un texte qui est à aller lire sur le alacoupe.ca. Également, je vous invite à aller suivre les textes qui s'en viennent pour le repêchage de la LHJMQ, puisque le projet À la coupe va couvrir le repêchage de la LHJMQ qui se tient le 10 juin prochain. Alors, le dossier du repêchage est déjà entamé et c'est disponible sur le alacoupe.ca. Ils travaillent très, très fort, notre équipe de la LHJMQ, sur le sujet. Alors, bien entendu, je vous invite à aller les rejoindre. Sans plus attendre, on va maintenant rentrer dans le vif du sujet. D'abord et avant tout, on va inclure notre chroniqueur de cette semaine qui a eu une guerre de chats. Comment ça va?
Ça va super bien, toi?
Ça va très bien. Donc, juste pour situer, avant de rentrer en onde, les deux chats se sont battus d'une manière assez sauvage.
C'était une bonne bagarre.
All right. Donc, au niveau du hockey, ben là, on a des petites nouvelles. On va commencer avec Patrick Kane, que tu voulais parler, première des choses. Patrick Kane, 4 à 6 mois de recovery, de
rétablissement. Ouais, de rétablissement. Ouais, 4 à 6 mois.
C'est
une opération qui, ben, ça influence son prochain contrat, qui est agent libre. Parce que 6 mois, c'est après, la saison a commencé dans 6 mois, puis même 4, ça va être serré. Même 4, il ne fait pas de camp d'entraînement, fait qu'il y a une équipe qui va prendre un risque. Avec pas de camp d'entraînement après une opération d'un joueur assez âgé. Par contre, les docteurs qui ont fait l'opération l'ont fait parce que Patrick Kane veut jouer longtemps. Fait que sont persuadés qu'avec cette opération-là, il va jouer plus longtemps. Mais en même temps, il va être en forme parce qu'on voyait qu'il y avait de quoi. Là, Patrick Kane, c'est pas le même Patrick Kane que mettons l'année passée, il y a 2 ans. Même si on sait qu'il vieillit, mais ça reste qu'on savait qu'il y avait une blessure quelconque. Puis il a voulu corriger le tir. Puis, j'ai hâte de voir quelle équipe va prendre la chance. Moi, je pense que s'il va signer peut-être plus au mois de novembre, décembre, avec une équipe qui est contender, je pense que ça va ressembler à un contrat d'un agent, une affaire comme ça.
Ouais, ben, j'ai fait un calcul, mais vite, là, puis ça me donnait d'être un retour probablement au mois de genre de novembre. Là. C'est loin. Là.
Ben ouais, novembre, je pense que c'est 6 mois, mais je le verrai peut-être avec les Sabres de Buffalo. Je pense qu'il vient de Buffalo. Fait que les Sabres, on sait qu'ils sont rendus à l'étape de faire les séries. Fait que pourquoi pas aller dans sa ville. Ben, je pense qu'il y a une Buffalo, je suis même pas sûr, mais je suis pas mal sûr qu'il y a une Buffalo. Mais en tout cas, peut-être que l'équipe, c'est peut-être l'équipe de son enfance. Hein. Fait que
si tel est le cas. Right, ouais, il vient de Buffalo, je te confirme.
Bon, fait que il y a déjà Alex Tuck qui vient de Buffalo qui est là. Fait que si les Sabres sont dans un bon début de saison et tout, pourquoi pas? Un vétéran qui va aider les jeunes, puis que c'est sûr qu'avec Patrick Kane dans l'alignement, t'es meilleur que sans Patrick Kane dans l'alignement.
Exact. Ce gars-là, il n'y a plus rien à aller chercher. Fait que même si ce n'est pas une équipe qui est contender à la coupe, là, tantôt tu disais une équipe contender, mais je pense que ça pourrait aussi être.
Ben, une équipe qui peut aider à faire les séries au moins. Là. Je ne vais pas signer avec les Ducks ou les. Sans vouloir manquer de respect les Coyotes. Parce que tu sais, il sait que. Mais au moins, je les ai appelés encore les Coyotes, fait que c'est une bonne nouvelle.
Et hey, puis d'ailleurs, une parenthèse là-dessus, hein, il y avait eu la mention, je pense que c'était le coach des Golden Knights, si je ne fais pas erreur, là, qui disait qu'on aurait même
pas attaqué les complètement Coyotes. Complètement innocent.
Puis c'est ça, tu sais, le monde sont comme, mais ils attaquaient les Coyotes, ils n'ont pas rapport, c'était pas la pire équipe de la Ligue, puis tout ça. Mais je tiens juste à souligner qu'au mois de janvier, les Coyotes avaient une fiche de genre 4 victoires, 12 défaites. Là, fait que situé dans le temps, ils étaient vraiment dans une passe difficile. Fait, mais ça revient quand même à la même idée, on dirait qu'on bûche sur une équipe.
Mais je veux dire, c'est pas un commentaire qui se fait de bâcher une équipe. Que des difficultés. Je veux dire, ça aurait été Anaheim, Columbus ou Montréal qui aurait boussé à nos yeux, peu importe. Ça aurait pas été plus intelligent de dire ça à un coach. Genre, c'est une équipe de la Ligue nationale, oui, une équipe, mais c'est pas une équipe qui est compétitive. Fait que moi, j'ai pas trouvé ça intelligent. Puis, tu sais, déjà que je déteste les Golden Knights, ben, c'est une raison de plus dans le sac pour
continuer.
Bon, c'est ça, ça va pas s'améliorer leur affaire.
All right, je vais vous parler d'une information qui a coulé d'Aaron Drager. Donc, c'est pas un leak à proprement dit. D'Aaron Drager qui disait que, selon lui, folle serait l'équipe qui ferait une offre hostile à Cole Caulfield parce que pense que le Canadien va à côté de toute manière, peu importe la grosseur. Moi, je te propose ça, là, c'est, je suis peut-être dans le tort, là, mais je pense que si tu as une bonne offre à faire, on sait que c'est rare, mais ça arrive des fois.
Ouais.
L'erreur qu'il avait faite avec Sébastien Aho, c'est qu'il visait un gars qui faisait partie du cœur de l'équipe, donc c'était sûr que les Hurricanes allaient à côté. Tandis que Don Waddell, lui, il a pris un joueur qui était dans la depth chart de l'équipe, pas le cœur de l'équipe.
Mm-hmm.
Cole Caulfield fait partie du cœur, d'après moi, on accote tout. Là.
Ouais, c'est sûr que c'est une équipe, en pensant à ça, par exemple, une équipe pourrait venir faire chier le Canadien un peu, je te dirais. Le Canadien a peut-être donné 8.5, puis mettons, une équipe arrive avec 9.5, 10 millions par année, ça commence à faire quand même 1.5 million de plus par année de plus, là, faut que tu y penses. Mais je pense que le Canadien va égaler, mais je pense que c'est pas tant vu souvent des offres hostiles juste pour que l'équipe se retrouve dans le trou. Mais moi, j'aimerais ça voir des choses comme ça. Mais je sais qu'il y a des gens ensemble, il y a une fraternité et tout, fait que...
Je vois
souvent, souvent, si un joueur, un DG ferait une affaire de même, il se ferait. Je pense que ça serait pas bon pour lui avec les autres équipes parce qu'il disait t'as visé un gars. T'sais. Mais en même temps, Bergevin l'a fait avec Aho.
Ouais. Parce que Waddell l'a remis. Puis tu vois, une petite parenthèse, là, on a appris récemment que les directeurs généraux ont une conversation.
Messenger. C'est un WhatsApp, je pense.
Je sais pas c'est quoi, mais ils ont une conversation à eux, puis quand ils sont kick-out, ils sont kick-out de la conversation aussi. Fait que, tu sais, des fois, dans les conversations de groupe, quand quelqu'un fait vraiment un coup chien, tout le monde se met compte, puis à ce moment-là, ça va être difficile de conclure tes transactions. Fait que je pense pas que ça soit nécessairement très avantageux pour eux.
Non.
La réalité est hautement différente parce que c'est un joueur qui fait partie du cœur de l'équipe. Fait que bref, je pense pas qu'on va aller dans cette optique-là.
Mais par contre, je trouve ça long pareil.
Ouais.
On s'entend que Cole Caulfield, c'est le gars le plus électrisant chez les Canadiens. J'enlève rien avec Suzuki, mais Cole Caulfield, quand il a la rondelle, il fait son lancer, c'est lancer sur réception d'avantage numérique. C'est le joueur qui met le plus d'entrain, je trouve, avec les Canadiens, avec les fans aussi. Son je laisse vraiment plus que Suzuki. Puis, on est rendu au mois de juin. Là. Puis, il n'y a rien, on n'entend même pas. Je trouve, avec les Canadiens, je ne comprends pas qu'est-ce qu'ils attendent. Genre, tu sais, c'est un no-brainer de Cole Caulfield. Puis admettons, il arrive de quoi, il se blesse ou il arrive de quoi, il, je sais pas, il floppe. Ça me surprendrait. Là. Mais tu peux pas en dire aux Canadiens de leur en vouloir parce que n'importe quelle équipe aurait Cole Caulfield, son équipe aurait fait ce que le Canadien va faire, le signer à long terme. Peut-être que le Canadien veut pas le signer à long terme, mais moi, je pense que ça fait 2 ans qu'il est dans la Ligue nationale. C'est pas complète, mais ça reste qu'il nous a montré quand même ce qu'il pouvait faire. Puis en tout cas, moi, je un joueur vedette qui c'est long avant de signer, je trouve tout le temps ça plate. L'année passée, Patrick Laine aussi, je trouvais ça long. Finalement, il a signé 4 ans, mais tu sais, je trouve qu'un joueur étoile, pour un fan, je trouve ça vraiment plate de voir que l'organisation, tu sais, ça fait depuis le début de l'année qu'on en parle, là, puis on est rendu au mois de juin. Là, parce que...
Ouais, t'as raison. Puis quand on regarde, exemple, Jake Allen, lui, il avait été signé pendant la saison morte. Là, fait qu'il avait été signé avant le début de la saison l'année passée.
Ouais, puis Jake Allen, je veux dire, il n'y a personne qui est sorti en criant wouh! Tandis que lui, on le sait que Canadien va le signer.
Eh ouais.
Mais en tout cas, si c'est un contrat de 8.5, je veux dire, pourquoi ça a pris autant de temps?
Je pourrais pas te dire, peut-être est-ce qu'on attend le repêchage, peut-être qu'on est en prévision de libérer de l'espace. Je sais pas exactement c'est quoi le plan.
Ouais, mais ils peuvent le signer pareil, puis c'est au début de la saison, je pense qu'il faut que ton cap salarial soit. Fait que tu peux le dépasser pendant l'été. Fait que...
C'est vrai, t'as raison. Mais tu as un pourcentage que tu peux dépasser. Tu peux pas dépasser.
Ouais, mais.
C'est quoi le pourcentage?
Avec Caulfield, je pense que les Canadiens ont quand même une bonne masse, quand même 19 millions, je pense, de libre. Fait qu'avec Caulfield, je pense pas qu'ils vont dépasser le pourcentage, mais en tout cas.
Yeah. Je ne penserais pas non plus, mais ben, bref, c'est un dossier qui va être à suivre assurément. Puis Cole Caulfield fait partie des joueurs, comme tu dis, les plus appréciés par les partisans.
Exact.
Peut-être un joueur qui compte des buts. Puis compter des buts, ça se paye cher dans la NH. Fait qu'on n'aura pas le choix de sortir la cash.
Comme Bob Sennett dirait, un marqueur, c'est rare comme la marde de pape. Fait que...
c'est une belle image. Le pape, il ne va pas souvent aux toilettes, ça a l'air.
C'est ça.
Pas de temps en temps.
Mais il n'y en a qu'un, fait que...
On va y aller maintenant avec la finale de la Coupe Stanley. Du côté de la finale de la Coupe Stanley, ben, on a eu un balayage dans l'Est. C'est un peu décevant, mais il y a un point que moi, je tiens absolument à souligner, c'est que ce n'est pas de la faute des gardiens de but pour les Hurricanes parce qu'ils ont gardé des statistiques qui sont à la hauteur des statistiques des gardiens. Anderson, 1.87, 921 d'efficacité. Dans le cas de Ranta, un seul match, 1.94, 923 d'efficacité. On n'a pas marqué de but du côté des Hurricanes et ça a été meurtrier.
Ben, les Hurricanes n'ont pas marqué de but, mais tu sais, quand tu dis que ça finit en 4, c'est décevant. Oui, c'est décevant, mais comme Red Brindamo l'a dit, C'est une série en 4, mais c'est pas en 4 techniquement. Premièrement, il y a eu 2 games en une, dans une game, la première. Ils ont joué 7 périodes. Fait que déjà là, tu as 2 games en une, mais tous les matchs ont été serrés jusqu'à la fin. Un but. Je sais même pas s'il y a un but dans un fait d'hasard. Je pense que ça a tout le temps été serré. Fait que c'est sûr que je suis déçu parce qu'il y a moins eu de hockey pendant une laps de temps, mais je trouve que la série a été. J'ai aimé mieux regarder la série Panthers Hurricanes que Dallas contre Golden Knights. J'ai trouvé Golden Knights et Dallas, ça m'a vraiment déçu. À part les 2 premiers matchs qui ont quand même été enlevants, mais le reste, ça a été vraiment plate. Fait que même si ça a duré 4 matchs, je trouve que les équipes ont été. Je pense que cette série-là aurait pu être en 4 pour les Hurricanes aussi. Là. C'est 2 matchs en prolongation, des buts à la fin de la game, comme Kachuk à 4 secondes. Ça aurait pu être d'un bord puis de l'autre. Tous les matchs auraient pu être d'un côté ou de l'autre. Fait que oui, en 4, mais. Chapeau aux Hurricanes avec les blessures qu'ils ont. Tevra Vainen qui n'était pas à 100%, Zvechnikov absent, Pacioretty absent. Si ces gars-là étaient dans la line-up, on ne parlerait pas des Panthers en finale de la Coupe, on parlerait des Hurricanes.
Ben là, d'ailleurs, je vais t'appuyer avec Tevra Vainen. On parle en 4 matchs, il y a un seul point. Je pense que c'est un but en plus, mais toi, tu me l'avais souligné. En tout cas, dans le premier match, je pense qu'il a tiré juste une fois en cette période.
Fait que c'est, ouais, ou deux, puis il y a des tirs déviés là-dedans, puis son tir, c'est comme un. C'était un tir, genre, la rondelle était dans l'enclave. Je pense qu'il a donné un coup dessus, puis elle a rentré top corner. Mais okay, pour un joueur de la Ligue nationale, faire un tir comme ça, je pense pas qu'il y a besoin de toutes ses mains, genre, de lever la rondelle comme ça. Mais tu voyais qu'en avantage numérique, il essayait jamais de lancer. Mais Tevra Vainen, c'est un gars c'est un passeur avant tout, mais ça reste que quand même, il est capable de marquer. Mais il n'y avait pas le choix de le mettre parce qu'il manquait vraiment un cruel manque d'attaque dans le top 6. Tu sais, quand t'as Martineau qui joue top 6, là, oui. Je l'adore, Martineau, c'est un gars qui est utile, mais tu peux pas jouer top 6 avec un gars comme ça.
Mais sinon, je veux aussi apporter l'attention. Tu sais, un gars comme Sebastian Aho, il a juste 2 points en 4 matchs. Sinon, Kotkaniemi, 1 point. Burns, 1 point. Tu sais, il y a un paquet de joueurs qui ont juste 1 point. La production offensive n'a pas été là.
Non, c'est sûr. C'est sûr que les gros canons des Hurricanes, ceux qui restent, n'ont pas été là, mais en même temps... Combien de buts se sont fait voler par Sergei Bobrovski? Il a volé des buts. Fait que j'ai de la misère. Je mets pas la faute sur Hurricane. Je pense qu'ils ont eu une excellente saison. Encore une fois, une finale d'association, c'est sûr que ça arrive souvent. Les Hurricanes se perdent en finale d'association, mais ça reste que leur équipe, leur noyau reste là. T'sais, Aho est là. T'sais, même Kotkaniemi, je trouve qu'il y a eu des bonnes passes, des moins bonnes games, mais ça reste qu'il est encore très jeune. Brent Burns, vraiment, il va rester là. Je ne sais pas son contrat s'il finissait, mais moi, je pense qu'il a adoré son en Caroline. Les gardiens de but, je pense que n'importe quel gardien de but que tu vas mettre là, il va être bon. Fait que, tu sais, Svechnikov va revenir l'année prochaine. Jarvis est jeune. Drury est jeune. Nekas, ça a été son breakout year en plus cette année. La défensive, le top 4 intact. Les Hurricanes vont être bons encore pour des années. Fait qu'à un moment donné, je pense que les feux verts vont s'aligner puis ils vont se rendre jusqu'au bout. Mais c'était pas cette année, malheureusement.
Puis ça, ben, la dernière chose que je veux souligner avec les Hurricanes, c'est que Seth Jarvis avait, il me semble, 2 points aussi dans la dernière série, comme Sébastien Aho. Fait qu'il a connu des bonnes séries de manière générale. Maintenant, on va aller du côté de la Floride. Parce que du côté de la Floride, on a eu 2 gars qui ont vraiment shiné overall, je dirais. Sergei Bobrovski, une moyenne de 1.12, 966 d'efficacité. Ce gars-là, il a volé des matchs.
Ouais, ben il en vole depuis le début des séries, mais cette série-là en particulier, le match en prolongation, je pense qu'il y a eu 65 arrêts jusqu'en 2024-2025, fait que Brent Burns reste dans le noyau des Hurricanes. Mais merci. Bobrovski qui sérieusement, il a rien à se reprocher là, il goal au-dessus de sa tête, mais tu sais contre les Leafs, c'était quelque chose, mais là c'était incroyable des 2 contre 1. Sérieusement, il est dans sa zone puis j'espère que ça va se continuer parce que je pense qu'ils ont comme perdu le momentum qu'il y avait. Là. Ça fait presque 2 semaines qu'ils n'ont pas joué. Là. Fait que j'ai hâte de voir, mais je pense que le mindset d'un gardien de but quand il est dans sa zone, même s'il n'est pas dans un match pendant 2 semaines, je pense pas que ça va l'arrêter. Puis quand j'ai vu pleurer, sérieux, là, c'est venu me chercher. Là, quand ils ont scoré le but à 4 secondes, tu vois qu'il pleurait dans son masque. Puis c'est la preuve qu'un gars qui a travaillé fort dans sa vie. Là, il y a eu des opérations à l'aine, à la hanche. Puis je pense qu'il a réalisé que c'est en la finale de la Coupe cette année. Fait que j'espère que ça va se continuer, mais c'est la raison pourquoi les Panthers sont en finale. Oui, il y en a qui vont parler de Mathieu Tkachuk, mais Mathieu Tkachuk a eu des matchs qui étaient absents, surtout contre Toronto. Mais Bobrovski, lui, a toujours répondu présent.
Oui, moi, ce que je t'avais dit la semaine dernière, je pense, si je ne fais pas erreur, là, ouais. La première ronde, je me disais Mathieu Tkachuk, Connie Smythe. Je me disais Bobrovsky, Connie Smythe. Troisième ronde, j'y vais avec les deux parce que les deux, selon moi, ont été importants.
Ben, si tu regardes la cote sur les paris sportifs, Bobrovsky est à 3 et Tkachuk à 4.2. Fait qu'il n'y a pas beaucoup de différence entre les deux. Après ça monte, là, surtout pour Vegas, que je pense que n'importe qui peut gagner Connie Smythe. Fait que je pense que si les matchs demeurent à beau pointage et Bobrovsky goal comme ça va être Bobrovsky, mais si Tkachuk score 3 buts en 3 matchs en overtime, ça va être Tkachuk aussi.
Et là, on va en parler puisque oui, Mathieu Tkachuk a été le sauveur à plusieurs reprises lors de ses 4 matchs contre les Hurricanes. Il y a 4 buts pour 5 points, dont entre autres 3 buts de la victoire, ce qui égale le record de tous les temps dans la LNH pour une seule série. Oui, c'est ça. Pour une seule série, 3 buts de la victoire, il égale Dustin Byfuglien en je ne sais pas quelle année. Mais en tout cas, bref, il a égalé un record par rapport
Big
à ça.
Buff.
Écoute, Mathieu Tkachuk a été overall, non seulement il a sauvé en prolongation, mais tu sais, son petit move de on sort, ça donne une saveur à l'organisation. Puis j'aime le fait qu'il rallie ses gars ensemble. Je ne le voyais pas comme un leader, mais finalement, il l'est peut-être.
La première game, c'est, je pense, on sort parce qu'on est fatigué.
Ah ouais.
Mais la deuxième game, il disait vraiment on s'en va à la maison. Là. Ouais. Fait que, tu sais, moi, j'adore ce genre de célébration-là, surtout en prolongation. Là, je veux dire, le match est fini, fait que tu t'en vas tout le monde. Puis je pense qu'il va en faire une tradition en série, ce genre de célébration-là.
Ah, oui, c'est là, ça a marché. Là.
Puis, tu sais, le dernier but, on parle d'un but à 4 secondes. C'est pas un but en prolongation, mais c'est.
Mais oui.
C'est fini, là. C'était fini. Fait que. Mais. Non, c'est un clutch player, mais la game qu'il a joué justement en cette prolongation, je sais que tu étais en live aussi sur TikTok, puis j'ai rejoint live, je pense, en deuxième prolongation, puis moi, j'arrêtais pas de vous dire que je voyais pas Mathieu Tkachuk dans ce game-là. J'avais un pari qu'il fallait qu'il fasse au moins 4 shots, honnêtement, puis il en a fait 3. Puis, tu sais, il est clutch, mais on l'a pas vu beaucoup ce match-là. Puis, tu sais, oui, c'est le fun d'être clutch au meilleur moment, mais comme moi, je parle plutôt du connaissement, là, quand on parle comme ça, là, que je parle, c'est pour ça que je dis que. Tu sais, Bobrovsky, lui, s'il y a une période d'absence, les Panthers perdent le match. Tandis que Tkachuk, lui, il peut se permettre de pas être, d'être absent pendant une ou deux rencontres parce que les autres joueurs vont prendre le lead. Mais Bobrovsky, il accorde 2 mauvais buts. Surtout contre les Hurricanes, la game est terminée. Fait qu'il perdait.
Donc, Alex Lyon, c'est pas lui qui a fait ses preuves lors de son seul match en série.
Ben, je pense qu'il a joué 2-3, Lyon. Bobrovsky, je pense que c'est arrivé match 3 ou 4. C'est là que la série a viré de bord, par contre. Là. Mais... J'ai vraiment hâte de voir ce qui va se passer dans la finale de la Coupe Stanley.
Là, avant qu'on aille plus loin, on a quand même juste souligné le fait que les Panthers, là, on parle de Barkov, de Duclair, de Reinhardt, de Verhage, de Bennett. On est tous à 3 points en 4 matchs. Fait que je sais que selon toi, les Hurricanes ont quand même bien joué, mais je pense quand même que la performance offensive a été beaucoup plus présente du côté des Panthers que du côté des Hurricanes, ou du moins au niveau individuel. Parce que tu as plusieurs gars qui ont plus qu'un point, alors que du côté des Hurricanes, tu en as plusieurs qui ont un seul point.
Ah, ben c'est sûr. Je pensais pas dire ça, mais l'attaque des Panthers était plus balancée que celle des Hurricanes. Puis je pense qu'ils ont trouvé. C'est sûr que Duclair est arrivé avant le dernier tiers de la saison. Puis quand tu te fais opérer comme ça, le tendon d'Achille, ça prend plus que 3 matchs sans revenir à ton game que tu avais parce que tu n'étais pas passé pendant un méchant bout. Et là, Duclair est vraiment dans sa game. Son coup de patin, c'est un gars qui est explosif. Puis, il joue avec les bons joueurs. Fait que, tu sais, des gars comme Barkov, des gars comme Bennett, Reinhardt sont tellement importants dans cette équipe-là. Puis, moi, j'en avais parlé, je sais pas si c'est dans le podcast ou dans un live TikTok, mais Etu Luostarinen, je trouve que c'est vraiment un joueur qui passe sous le radar, qu'on parlera jamais dans un podcast comme on parle là, mais c'est vraiment un gars qui fait un travail incroyable en défensive. Puis oui, il ne score pas tant de buts, mais ça reste que ce gars-là, s'il n'est pas là, derrière moi, je pense pas que les Panthers sont là pour vrai. Le gars, il fait du travail incroyable, puis il faut le souligner. Puis les Panthers jouent en équipe. On s'est rendu en finale, comme le Canadien quand il était en finale, ils ont joué en équipe. Oui, c'était beaucoup Price, mais ça reste que les gars se serraient les coudes ensemble, puis ça te prend ça dans une équipe, parce que sinon, tu te rendras jamais en finale de la Coupe Stanley. Puis je vais prendre les Rangers. Les Rangers n'avaient pas l'air soudés du tout. Tu le vois quand une équipe est soudée. Puis les Golden Knights aussi sont soudés. Tu le vois tout de suite. Ben, en fait, je pense que les 4 équipes qui étaient en finale de cette session, c'était des équipes qui étaient soudées. Puis on le voyait tout de suite. Fait que c'est pas juste le fait d'avoir des bons joueurs. Il faut que tu aies un bon esprit d'équipe, des bons leaders. Puis ça, je pense qu'on le. On prend pas assez d'importance à ça quand la date limite de transaction arrive ou quand on bâtit une équipe. Puis je pense que les DG devraient plus Ben, en fait, les exemples sont là. Je dis ça ne ment pas. Là.
Non, en effet. Puis de toute manière, ça, c'est pas quelque chose que tu peux créer à partir de transactions. Là, ça se crée beaucoup entre les gars à la base.
Hein. Ben, c'est ça, parce que des fois, des gars qui s'entendent juste pas, là, qui sont pas faits pour être ensemble. Tu sais, je pense que tu t'as Mike Hoffman dans ton équipe, tu peux pas avoir un bon esprit d'équipe. Ce gars-là, partout ce qui a passé, ça a été bizarre comme parcours. Fait que, mais juste Corey Perry avec les Canadiens, je pense que si c'est Corey Perry de cette année-là, je suis pas sûr qu'il gagne, que ça va en finale. Tu sais, quand il perdait 3-1 contre Toronto, il s'est levé dans la chambre. T'avais Rick Starr aussi qui était là aussi. T'avais deux des meilleurs vétérans, je pense, dans la ligue qui ont gagné.
Chez Weber est important.
Chez Weber, je l'oublie, mais effectivement, t'avais un trio, même Carey Price.
Ah ouais, puis, même Carey Price.
Ça te prend des leaders. Puis les Rangers de New York, ben, je regardais ça, puis je me disais, il manque des leaders. Ouais.
Je suis d'accord avec toi. Alors, pour fermer maintenant pour ce qui est de la conférence de l'Est, le seul autre point que je vais apporter, moi, c'est le fait qu'on a comparé beaucoup les statistiques de Sergei Bobrovsky avec celles de Carey Price en 2021 quand on s'est rendu en finale de la Coupe Stanley. Mais une différence majeure qui existe entre Sergei Bobrovsky aujourd'hui et Carey Price, c'est que son équipe est capable de marquer des buts alors que Carey Price, c'était pas le cas. Fait que bref, du côté des Panthers, on a bon espoir en série finale, puis je pense que toutes les chances sont de leur côté. Ensuite de ça, on va y aller avec la conférence de l'Ouest. Une série, semble-t-il, que tu as trouvé moins intéressante. Moi, j'ai trouvé quand même assez intéressante. C'était violent. Jamie Benn qui s'est fait sortir en partant. Hein, puis les Golden Knights ont remporté 4-2 contre les Stars de Dallas. Bien entendu, j'aime beaucoup Jake Oettinger, mais ça a été difficile en série. Semble-t-il qu'il jouait avec plusieurs blessures du côté de Jake Oettinger. 3.84, 877 d'efficacité contre les Golden Knights. Ça, là, c'est la mort des Stars. Oettinger, il n'est pas là, les Stars ne peuvent pas.
Ouais, puis ils ont manqué beaucoup de chances de marquer les Stars. Le match numéro 6, j'ai pas pu l'écouter en live. Mais j'ai réécouté le début de match, parce que je voulais voir ce qui s'était passé. Puis European, ça me manquait deux chances en début de première. Si tu marques là, ça change la game au complet. Ils sont fait marquer deux buts rapides. Mais Jake Oettinger, deux fois dans la saison, a quitté, pas quitté l'équipe, mais a manqué des matchs à cause d'une blessure. Scott Wedgwood a pris la relève deux fois. Fait que ça veut dire qu'il y avait au moins deux petits bobos là, puis ces bobos-là sûrement qui ont resté, puis en série, ben il devait être encore plus présent. Mais effectivement, c'est pas le Jake Oettinger de l'an passé. Si Joe Oettinger avait goalé comme l'an passé, cette année, c'est sûr qu'il est en finale de la Coupe. Parce que contre Calgary, c'était incroyable. Ils sont rendus en 7, mais...
Avant le match numéro 6, là, je voyais qu'il y avait beaucoup de monde sur les réseaux sociaux qui mentionnait que Jake Oettinger était invaincu quand il faisait face à l'élimination ou quelque chose en même. Mais tu sais, comme quoi, quand il y avait de la pression, il sortait fort. Puis le dernier match, il l'a échappé. Là, ça finit 6-0. Là.
Ben, il ne peut pas être invaincu quand il fait sa élimination parce qu'il a perdu contre les Flames l'année passée.
Fait mais il y avait ça. Quelque chose par rapport au match numéro 6 qui faisait face à l'élimination de quoi de même. Là.
Oui, ça se peut. Mais c'était pas le Jake Oettinger de l'année passée. On l'a vu à quelques reprises. Durant la série Golden Knights, il a volé un match, je pense. Là. Il a fait des gros arrêts, puis son équipe a marqué tout de suite après son gros arrêt, mais ça prend plus que des séquences de matchs d'être bon pour aller loin. Puis malheureusement, mais Jake Oettinger, il est encore très jeune, puis les Stars sont très jeunes aussi, à part, mettons, Pavelski Ben, mais il y a une belle relève dans cette équipe-là, fait que je suis pas inquiet pour le futur, mais je suis déçu de voir les Golden Knights passer...
Puis avant qu'on quitte les Stars, il faut quand même mentionner que tu viens de le mentionner, là, il y a des jeunes dans cette équipe-là. Rupins était le meilleur pointeur des séries éliminatoires avec un total de 24 points en 19 matchs. Du côté de Jason Robertson contre les Golden Knights, 5 buts, 6 points en 6 matchs. Fait que ça l'a bien été pour les jeunes de cette organisation-là. Puis ben, écoute, Jamie Benn, est-ce qu'il est encore nécessaire? Non, mais il a été absent, puis crime, il gagnait.
Ouais, c'est sûr, mais moi, je pense que le fait qu'il soit absent, ça a peut-être motivé les gars à dire, regarde, pour notre capitaine, on va se lever, puis, tu sais, je persiste et signe à dire que Jamie Benn, c'est un bon leader, c'est un bon capitaine, puis, sérieusement, moi, je pense pas que son coup, il voulait donner dans la face, là. Je pense qu'il voulait donner sur l'épaule, puis on voit clairement que ça glisse, puis ça tombe. C'était pas intelligent, mais je pense que Jamie Benn voulait donner un double échec à Stone, mais il voulait pas être donné dans le coup d'en face. Là. On voit clairement que ça touche l'épaule avant de tomber. Fait que, c'est pour ça que je pense qu'il y a eu deux matchs, parce que si ça aurait été directement à la tête, je pense qu'il aurait pu donner plus. Mais
en termes de gestes pas intelligents, Max Domi, là, qui a carrément agressé un joueur, là, c'était pas fort non plus. Là.
Ouais, ça, on avait parlé, je pense, je pense que c'était Nicolas Hague. Mais en tout cas, Domi, c'est son style. Puis moi, j'aime mieux voir un joueur comme ça qui veut provoquer quelque chose qu'un joueur qui reste assis puis qui fait rien. Tu sais, Domi, si c'est un gars qui veut gagner, tu le vois. Est-ce que c'est tout le temps la bonne raison, la bonne façon de le faire? Non. Mais le gars veut. Puis le vouloir, quand tu veux, tu peux, man. Puis moi, j'aime mieux voir ça qu'un gars comme Clendening. Il y a un gilet, puis il y a un nom sur le casier, mais on n'entend pas parler partout.
Claude ici qui nous dit que bon, Ben avait été très flat aussi au sixième match, mais ça a été.
Ben, je te dirais que l'équipe au complet. Sérieusement, là, moi j'ai eu une game de deck lundi, puis j'étais fâché parce que je manquais le match numéro 6 entre Dallas puis Vegas, puis je manquais le numéro 7 entre les Celtics et le Heat. Puis les deux matchs ont été dégueulasses. Puis sérieusement, ça, c'est pas bon pour le sport parce que match numéro 6, 6-0, puis le match numéro 7 d'une autre ligue, qui est une ligue très importante, qui finit par 20 points, 19 pour être plus précis. C'est, sérieusement, on avait des attentes envers ça. Puis finalement, une chance que la Coupe Memorial existe parce qu'on a eu un bon match entre les Remparts et les Thunderbirds. Mais sérieusement, ça va vraiment mal au sport de voir des games si importantes. On appelle ça un blowout là, en termes de sport. 6-0, moi, j'ai jamais vu ça. Je pense un match numéro 6, mais 6-0. J'étais fâché. J'étais fâché d'arriver chez nous que la game était finie.
L'équipe perdait 0-3, puis là, il venait de gagner deux matchs. Mais oui,
devant tes partisans. Ouais. Les deux équipes étaient devant leurs partisans. Dans les deux sports, ils sont fait éclater devant leurs partisans. Ça fait mal. Ah, j'espère qu'il n'y aura pas de séquelles d'un bord ou de l'autre.
Juste une parenthèse, là, tu parlais de la NBA. Là. Moi, ouais. Je ne suis pas beaucoup, mais j'ai vu que c'était jamais arrivé dans l'histoire de l'NBA qu'une équipe avait remonté 0-3, puis là, il avait réussi à gagner.
Mais oui.
Il était en septième, il avait gagné trois matchs d'affilée.
Il était au septième match à domicile. Ouais. C'était 150-0, l'affiche des équipes qui menaient 3-0. Ouais. Puis là, ça aurait pu être 151, mais non, c'est 151-0. Mais c'est la quatrième équipe qui s'en allait à un septième match, qui remontait le 0-3, mais à 3-3, mais la quatrième, ils n'ont pas gagné. Je sais que dans la Ligue nationale, je pense que c'est quatre fois là, que ça s'est fait, la remontée. Mais dans le NBA, c'est jamais arrivé.
Et puis sinon, ben là, on va aller voir nos champions de la conférence de l'Ouest. Je sais que tu les aimes pas, mais les Golden Knights ont quand même réussi. Ils ont quand même réussi à gagner. Moi, je me souviens, entre autres, le travail de Jonathan Marchessault. En 6 matchs, il a 4 buts, dont 7 points. Il a connu des très bonnes séries. Un gars des grandes occasions, Jonathan Marchessault. Mais comme tu as dit tantôt, je pense moi aussi que c'est un peu toute l'équipe qui peut être le meilleur joueur. C'est un jeu d'équipe du côté.
Ben, un soir, ça peut être n'importe qui. Mais Marchessault, dans cette série-là, était très bon. T'sais, un petit gars de Québec, on ne s'attendait pas à moins. Là. Mais...
S'il fait de Montréal, non.
Mais ben, jamais. Ben non. Mais très content pour Marchessault, sérieux. C'est un gars qui a commencé avec les Blue Jackets dans un camp. Après ça, il a été coupé, il se ramasse avec le Lightning. Il s'est coupé, il se ramasse avec l'équipe d'expansion. Puis là, boum, ça des saisons de 30 buts.
Puis, on a appris cette semaine que les Panthers de la Floride avaient transigé avec les Golden Knights pour qu'ils repêchent.
Oui, c'est ça. Il était avec les Panthers, mais il était avec le Lightning et Columbus avant. Puis, je m'en mords les doigts, là, un peu. Mais, c'est vrai que je déteste Vegas, mais par contre, j'aime mieux l'équipe des Golden Knights aujourd'hui que l'équipe d'avant. Okay. Au moins, là, ils ont conçu leur équipe. T'sais, ils ont été dans. On fuck le repêchage, on échange tous nos choix, nos espoirs, puis on va chercher des joueurs. Puis, je serais tellement content pour Jack Eichel, par contre. Si maintenant Vegas gagne la Coupe, Jack Eichel, Bob Hartley, j'écoutais à BPM cette semaine, puis il disait qu'il y avait pas beaucoup. Il était pas en haute estime de Jack Eichel, mais là, il dit il joue du hockey, le gars. Là. Puis, c'est vrai, c'est un des meilleurs joueurs des Golden Knights. Il s'est fait tout le temps dire que c'est lui qui est après McDavid, puis qu'il choke, qu'il a une mauvaise attitude, puis là, il est en finale de la Coupe, puis c'est une des raisons pourquoi. Fait que je serais content que je pense que ça ferait taire une coupe de haters de Jack Eichel, que c'est un joueur que j'aime beaucoup, même s'il est un peu cocky des fois. Mais je pense qu'avec les Golden Knights, il est arrivé dans le vestiaire, puis une coupe de gars qui ont dit hey, t'es pas à Buffalo aussi. Mais en même temps, à Buffalo, je veux dire, comment tu veux que ça se passe bien? Ils perdaient tous leurs matchs. Quand même une pression à Buffalo qui ont déjà été une très bonne équipe de hockey. Fait que mais je serais content pour Marchessault et Eichel. Mark Stone aussi, qui visiblement joue blessé. Là. Son dos, je pense, l'a fait souffrir. Fait que c'est des bons guerriers. C'est plus le deuxième étage des Golden Knights que j'ai pas aimé le traitement à Fleury, Robin Lehner après. Je trouve qu'il manque un peu de tact, mais en même temps, c'est une business. Puis je sais pas si t'avais prévu de parler de Ivan Barbashev, mais c'est probablement l'acquisition la plus importante de la date limite transaction. Puis encore une fois, ce n'est pas un joueur de premier, deuxième trio, c'est un joueur de profondeur. Un gars qui a déjà gagné la Coupe Stanley. Mais le gars, là, il joue du hockey incroyable. Sérieusement, là, ce gars-là, il est incroyable. J'en reviens pas, moi. Quelle acquisition.
OK. Je vois que tu as une affection particulière pour Barbashev. Mais effectivement, Barbashev, on parle de 6 points dans son cas à lui en 6 matchs. Tu as aussi Carlson qui a 6 points en 6 matchs. Mm-hmm. Nicolas Roy, le gars de... Il est du Québec, je pense qu'il est du Québec. Nicolas Roy, qui a 5 points.
William Carrier, un autre Québécois dans l'équipe aussi. Mais il n'y a pas beaucoup de points, mais c'est un gars qui est en trio. Mais c'est un gars qui se présente.
Puis Stevenson, que c'est peut-être un gars un peu moins connu, mais c'est un gars qui est très responsable. Je trouve qu'en termes de joueur de centre, c'est très...
Je crois qu'il a gagné la coupe avec les Capitals. Je pense qu'il était là dans ce temps-là. Mais c'est un gars qui était genre troisième centre, puis il est rendu deuxième, premier centre, parce que les Golden Knights, c'est pas clair.
Nicolas Roy vient de l'Abitibi.
Ah ben, un petit gars de l'Abitibi. C'est pour ça qu'il est bon, il vient pas de Montréal. Non, mais c'est fun de voir... une équipe qui c'est vraiment une équipe qui joue en équipe. Comme on avait dit, comme on a parlé auparavant, les Panthers sont une équipe, sont soudés. Il n'y a pas juste un joueur qui traîne le bateau. Ils sont tous là à pousser, puis c'est ça que ça prend. Fait que je suis vraiment content en même temps de voir une équipe qui est soudée, mais c'est sûr que les Golden Knights, si tu me demandes si je veux qu'ils gagnent, la réponse est non. Mais est-ce que tu me demandes si tu penses qu'ils vont gagner, je pense que oui.
On va en reparler, OK? Et on va finir avec les Golden Knights avec Aiden Hill en 6 matchs de 1.99, 939 d'efficacité. À l'époque où il évoluait chez les Coyotes, il était troisième gardien. Ça a changé depuis le temps.
Hein? Deuxième gardien à San Jose l'an passé, en plus.
Ça y va une étape à la fois, mais Crime, ça va bien, là.
Ben, ça va bien. Il a été blessé en plus cette année. Le gars doit se dire surréel. Surréel. Le gars était blessé toute l'année. Il avait Thompson qui s'est blessé. Ouais. Après ça, Brossois arrive. Jonathan Quick, il devait se dire, j'aurai jamais la place. Puis là, il est gardien numéro un. Une équipe qui s'en va en finale. Puis il fait des gros arrêts contre les Stars. Il y a eu des gros, gros arrêts. Est-ce que ça va continuer? C'est la question que tout le monde se pose. Mais en même temps, on se demandait ça, si ça allait continuer contre Dallas, si ça continue. Mais j'ai vraiment hâte de voir la série. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu les Panthers. On pense qu'ils sont éliminés tellement que ça fait longtemps. Mais j'ai hâte à samedi, vraiment.
C'est vrai que l'arrêt de plusieurs journées peut jouer probablement dans le lot. Fait que là, on va y aller avec nos prédictions. Mais avant de faire nos prédictions, je vais quand même te donner quelques statistiques. Alors, pour ce qui est des Panthers de la Floride depuis le début des séries éliminatoires, une moyenne de buts marqués de 3.13 versus les Golden Knights 3.65. Mm-hmm. Pour ce qui est des buts accordés, 2,69 en Floride, 2,65 à Vegas. C'est pas si loin quand même. Avantage numérique, 27,9 pour la Floride, 18,5. Donc quand même un avantage à la Floride. Mm-hmm. Et le désavantage, 71,2 pour la Floride, 63 pour Vegas. Ouf. Tu y vas avec qui? Finale de la Coupe Stanley, qui et en combien?
J'ai pas le choix d'y aller avec mon cœur au final.
C'est ça.
Je vais y aller avec mon cœur, les Panthers en 6 matchs pour mon boy Serge Bobrovski. J'ai pas le choix, je peux pas y aller contre ça.
Ben, moi, le point que je vais donner à ce moment-là, puis je vais vraiment juste pour m'ostiner avec toi, je vais y aller avec les Golden Knights de Vegas, parce que pour moi, cette organisation-là a un corps de leadership qui est vraiment très impressionnant. Mark Stone et Pietrangelo sont d'excellents leaders. Mm-hmm. T'as des gars qui sont capables de sauver la note en fin de match, et je crois que leurs défensives ont un système plus solide que les Panthers, à mon humble avis. Ils ont moins besoin d'un gardien de but solide, alors que les Panthers, si Bobrovski flanche, c'est fini. Fait que j'y vais avec les Golden Knights en 6 matchs.
Je suis d'accord avec toi. L'équipe la plus complète, c'est les Golden Knights. Mais c'est comme je l'ai dit, c'est un choix sentimental. Parce que si j'avais de l'argent à mettre, je les mettrais sur les Golden Knights. Mais côté sentiment, je ne peux pas aller sans mon idole, Sergei Bobrovski.
Écoute, si tu me suis sur YouTube, OK, Panthers avec un 4, tu vas voir que ça va être un autre preview que je vais faire. Puis là, je vais y aller avec les Panthers. Mais bon, pour le
but.
All right. Alors, en ce moment, se tient... Attends, c'est où? C'est Kamloops?
Kamloops.
Yeah. En ce moment, se tient à Kamloops la traditionnelle Coupe Mémorial, c'est-à-dire le plus beau trophée au niveau du hockey junior au Canada. Et là, les Remparts de Québec sont en très bonne position. On va donc y aller avec notre fan à la coupe.ca qui, pour la toute première fois, va être avec nous, Frédéric Mike. Comment ça va?
Salut les gars, ça va?
Salut, toi?
Très bien, mon cher.
Top shape.
Top shape. Écoute, en ce moment, il y a la Coupe Mémorial. Donc là, c'est en branle en ce moment. Et les Remparts sont très, très bien placés.
Ben, pour l'instant, je pense que les Remparts, c'est ma surprise. Là, parce que, premièrement, Thunderbird, j'y voyais premier dans le classement. Je pense qu'on va être d'accord que les gros canons comme Dylan Gunter, en ce moment, ils ne produisent pas pantoute. Seulement 2 à 6 en 3 matchs.
C'est pas de sa faute.
tu veux continuer. Je peux pas dire que le gardien Thomas Mulich, il est dans sa zone. Écoute, 2.02 de moyenne avec 923 d'efficacité. C'est le meilleur gardien en ce moment du tournoi. J'irai en enlever à William Rousseau qui a du très bon hockey pour le moment. Mais pour vrai, Québec, ils m'ont surpris durant le tournoi. Je lève mon chapeau au Remparts de Québec.
Puis sinon, écoute, mes connaissances sont limitées, là, mais j'ai entendu beaucoup parler de Malatesta. Je pense que ça va bien, lui, de son côté. Toi, t'es content parce qu'il est avec Columbus, right?
Ben, c'est sûr que ben, il est avec les Remparts déjà. En partant, c'est mon équipe. Puis il est avec mes deux équipes, dans le fond.
OK, mais j'ai entendu, il a l'air de bien s'en sortir.
Ben, pour vrai, je pense que, écoute, il était quoi, repêché en cinquième ronde par Columbus?
Trois ou cinq, je ne suis pas sûr.
Je pense que c'est cinquième ronde. Puis je pense que c'est un steal pour Columbus, pour vrai. Là, MVP des séries dans la JMQ. Présentement, excellente Coupe Mémorial pour l'instant. Meilleur marqueur de son équipe avec, je pense, son quatre joueurs avec quatre points en ce moment. Là, Bolduc, Robida et Théo Rochette avec lui. Là. Fait que pour vrai, Malatesta, c'est sa saison. C'est un joueur de 20 ans, je pense.
Il y a 19 ans. Ouais.
Fait que je pense que l'année prochaine, c'est direction Ligue américaine pour l'équipe de Columbus. Là.
Ouais.
Très bonne saison.
Il a déjà signé son contrat d'entrée dans le National. Fait que c'est sûr que l'année prochaine, il ne sera pas là. Mais James Malatesta, on le voyait surtout comme un buteur, on le savait, mais cette année, il y a vraiment. On a vu qu'il était clutch, qu'il se présentait, puis il joue quand même physique, il donne des belles mises en échec. Puis lors du dernier match, on l'a vu, là, il est parti de sa zone en patinant, puis il a burné le défenseur. Puis c'est pas une force qu'on attendait de James Malatesta, son coup de patin, mais on a vu qu'il s'avait beaucoup amélioré là-dessus. Fait est-ce qu'il va jouer en National? Je sais pas. Peut-être une troisième ligne. Je le vois comme peut-être un joueur de troisième ligne, mais ça reste que le gars, quand tu as un espoir à ton équipe qui joue comme ça, tu peux pas t'empêcher de dire wow, là. Mais le gars, il est tellement spécial. C'est pas juste des points, c'est à où qu'il fait ses buts. Tu sais, il est fait quand ça compte. Fait que c'est le fun de voir ça, mais l'équipe au complet des Remparts est sur la job. Là. Patrick Croix, c'est exactement sur quel bouton peser, à quel moment pour que ça marche.
Ouais. Puis, tu sais, il faut donner le crédit aussi à Justin Robida avec son part de trio. Ouais. Pour vrai, je pense deux de ses trois buts, c'était alimenté par Justin.
Oui, c'est une passe à palette à le but ouvert. Là.
Justin, je pense que selon ses stats, il a 4 passes en 3 matchs. Fait que, ça va bien pour lui aussi. Là. Fait que c'était un bon trio, disons.
Oui.
Puis, sinon, je ne sais pas à quel point c'est vrai, là, mais j'avais entendu la rumeur que Rousseau était peut-être pas très confortable pour son deux matchs en deux soirs.
J'aurais mis le deuxième gardien. Déjà que les Remparts étaient en finale, si j'étais Patrick Roy, j'aurais mis le gardien substitut. Là, pour vrai, c'est ton gardien numéro un depuis les séries. Il a joué tous les matchs des séries dans LHGMQ. Puis là, tu es assuré d'une finale. C'est un des tournois les plus prestigieux du junior majeur. Il aurait pu donner un repos. Est-ce que ça va briser sa confiance? Je pense pas. Il est dans sa bulle. Mais on va voir quand dimanche va arriver, on va le savoir. Mais je pense que William Rousseau, il n'est pas stressé avec ça. Je pense qu'il va être correct la fin.
Mais j'avais justement avec Étienne qui est dans le projet aussi, on s'est assiné pas mal sur les deux jours que ça avait. Moi, j'étais d'accord avec Fred que j'aurais mis Miller, qui est un très bon gardien pour vrai. Là. Il a eu des bonnes stats cette année. C'est sûr qu'avec l'équipe qui est en avant, c'est plus facile. Mais moi, j'aurais donné un repos parce que ce match contre les Pays, c'est bien être le tournoi le plus important au Canada. Que tu le gagnes 8-0, que tu le perds 10-1, ça change absolument rien. Fait que pourquoi est-ce tenter une blessure? Parce qu'il y a beaucoup de joueurs des Remparts qui sont très tôt vestiaires dans ce match-là en plus. Moi, j'aurais reposé tout le monde, j'aurais fait jouer ma troisième, quatrième ligne le plus possible. Mais les joueurs ont joué presque un match normal. Le trio d'Eliott Lavoie et tout, ça n'a pas vu beaucoup de glace. Moi, j'aurais mis Miller. Je sais que Miller a goulé la troisième période, mais moi, je n'étais pas en accord avec cette décision-là. Mais bon, c'est Patrick, le boss. Je pense que je vais lui faire confiance. On est rendu en finale de la Coupe Memorial. Fait que, vas-y, mon Pat, prends le tableau puis le crayon puis je te regarde.
Sinon, j'aimerais ça aussi qu'on parle d'un geste qui a été un geste plutôt douteux là, qui a été fait sur Rochette. C'est un coup qui était probablement directement à la tête. Là. Est-ce que je me trompe ou il n'y a pas eu de suspension, rien?
Non.
Zéro.
OK. Puis le coup était clairement.
Il y en a eu plusieurs. Je ne sais pas si Fred, tu as regardé tous les matchs. Oh, oui, mais il y a eu beaucoup de coups qui sont vraiment borderline, même que je dirais carrément salaud.
C'est sûr que C'est sûr que dans les quatre équipes présentement dans Coupe Memorial, l'équipe qui joue le plus agressif, c'est l'équipe de l'Ontario, les Peets. Okay. Alors, ça ne te cachera pas. Là. Écoute, ils ont quand même fini 10e overall dans la OHL, dans la Ligue d'Ontario. Puis, ils ont réussi à surprendre tout le monde pour aller jusqu'en finale puis battre l'équipe des Knights de London, Logan Mailloux. Puis, pour vrai, c'est peut-être leur stratégie de jouer physique à la Coupe de Montréal, mais pour l'instant, écoute, ils ont gagné contre Québec. Ça donne un show de plus pour tout le monde, un match de plus à la télé. Quart de finale contre Kamloops ce soir. Ouais. Est-ce que ça va changer la donne? Vont-ils se retrouver contre les Remparts? On ne sait jamais. Moi, je dis que les Peets ne sont pas finis encore. Même s'ils jouent physiquement, ça joue dans la tête des équipes, puis ça peut jouer contre les équipes adverses parce qu'ils pognent des mauvaises pénalités, parce qu'il n'y a pas de sanctions.
Oui, c'est ça. Mais je pense que j'ai cru entendre que c'était George Parros puis le comité de la Ligue nationale qui s'occupait. Fait qu'on n'est pas surpris qu'il n'y ait pas de suspension parce qu'il n'y en a pas dans la Ligue nationale. Fait qu'ils préparent les jeunes, dans le fond. Tiens, les gars, frappez puis vous ne serez pas punis.
Tu sais, Owen Beck aussi, le coup qu'il y a eu pour la suspension jusqu'à la fin des séries, c'était un coup disgracieux, mais c'était aussi pire que le coup de Théo Rochette.
Ouais, moi, j'en revenais pas, puis on voit que c'est la OHL qui a pris cette décision-là. Ouais. Et là, en tout cas, ça change. Mais bon, moi, j'étais un de ceux qui voulait que les Peets gagnent contre les Remparts parce que je voulais un match ce soir. Ouais. Mais si Kamloops gagne, ça va être un 3 en 3. Là. Ils vont jouer demain contre Seattle en demi-finale. Ça sera pas facile. Mais j'ai hâte de voir le match de ce soir. Ça va être un bon match. Puis les Peets... comme Fred l'a dit, ils sont pas finis. Là, je veux dire, ils sont en vie, ils ont gagné un match. Leur gardien a volé des séries dans la OHL. On l'a pas vu beaucoup. Il n'en a pas vu voler un match à date. Fait que si à soir, il décide qu'il arrête tout, il arrête tout. Là. Fait que j'ai hâte de voir. J'ai vraiment hâte de voir. Il y a des Brandon Altman, des Owen Beck qui sont là. Ils ont pas de mauvaise équipe, les Peets. Mais c'est sûr que c'est pas le même calibre que les trois autres, selon moi.
Puis là, ce soir, c'est les Peets contre?
Kamloops. L'équipe hôtesse. Mais l'équipe hôtesse qui est quand même assez loadée, je dirais.
Ouais, ben, de mémoire, il me semble, puis là, je me trompe peut-être, mais je pense qu'ils étaient deuxième, eux autres, dans leur ligue, ça se peut-tu?
Ben, ils ont perdu contre Seattle en demi-finale. Fait que,
ils étaient troisième, je pense.
Ouais, Winnipeg était deuxième, je pense. Je pense que c'était un puis deux en finale. Mais dans l'Ouest, c'était loadé. Je pense que j'ai jamais vu ça. Des équipes autant loadées de même. Là.
OK. Donc là, si je comprends bien, selon ce que tu me dis, Frédéric, je dirais probablement avec la déception, c'est les Thunderbirds de Seattle.
Oui, moi, 100%. Pour vrai, avec l'équipe qu'ils ont en ce moment, Dylan Gunter pour un choix de première ronde par Arizona, il faut qu'il en démontre plus. Il faut qu'il en démontre plus. Il y a eu une excellente championnat du monde junior excellent. Tout le monde l'attendait à ce qu'il performe. Puis en ce moment, deux points, aucun but. En tout cas, j'espère qu'il va produire en demi-finale. C'est pas fini, mais...
Il garde le meilleur pour la fin, je suis confiant.
Ouais. Parce que, tu sais, comme Fred dit, c'est sa déception, mais ils sont quand même en demi-finale. Ouais. Fait que, puis ils vont affronter une équipe qui joue soit un 2-2 ou un 3-3. Fait que, évidemment, l'avantage est de leur côté. Leur gardien est excellent, leur défensive est tellement forte. Je veux dire, sur papier, c'est la meilleure équipe et de loin. Puis c'est vrai qu'ils n'ont pas été si dominants que ça. Mais ils sont dangereux.
Puis si, mettons, on y va avec ta surprise, je sais que tu as dit que les Remparts, c'est ta surprise, mais as-tu un joueur qui t'a vraiment surpris depuis le début de la Coupe Memorial?
Joueur, Malatesta, je pense qu'il l'a prouvé en série de la GMQ. Mais pour vrai, le joueur de Seattle, Karl Kronovich, je pense. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit le meilleur marqueur du tournoi avec Stan Coven. Il a sorti nulle part. Okay. Je m'attendais pas sur celui-là. Moi, je m'attendais plus à Gunter puis à des gars plus hauts que ça, comme Altman, qui produisent plus. Mais écoute, c'est ma surprise pour l'instant. Si Seattle gagne le tournoi, pour moi, ça va être lui le MVP de la Coupe Memorial. Ou un Thomas Milic, qui est quand même un des meilleurs gardiens pour l'instant. Mais on verra. Puis William Rousseau, on sait jamais. S'il gagne la finale, ça pourrait être le MVP aussi, qui a une excellente moyenne.
Effectivement.
On sait jamais.
OK. Puis si, mettons, tu y vas avec ton joueur MVP so far, là, tu irais avec Malatesta?
Non, si les Blazers gagnent, puis qu'ils s'en vont, qu'ils battent aussi Seattle, faire 4 matchs en 4 soirs, ce qui m'étonnerait, j'y vais avec Logan Stankoven. excellent tournoi. 8 points en 3 matchs, pour vrai, c'est un excellent joueur. Bon, ouais. Écoute, il a joué à sa finale de conférence. Il a été éliminé par Seattle, puis il a quand même fini meilleur pointeur des séries. Là. De l'Ouest. Je pense que c'était 30 points en peut-être 15 ou 16 matchs. Pour vrai, il y a des excellentes séries. Puis à Côte Memorial, en ce moment, il domine. Puis si ce serait mon MVP, ce serait Logan Stankovic si les Blazers vont en finale.
Puis ça, est-ce que tu serais d'accord avec lui, toi, Sam?
Ben, c'est le meilleur joueur du tournoi pour l'instant et de loin, mais je ne suis pas surpris. Je veux dire, le gars, c'est un vol. C'est un vol des Stars de Dallas, selon moi. Moi, c'est le joueur que j'avais targeté pour le Canadien lors du repêchage. Je pense que c'est Lana Mayou, je pense, en plus. Mais ce gars-là, il est pas gros, mais il y en a dedans. Je pense que la hargne de Gallagher, mais avec du talent en plus. Là. Je veux dire, le gars, il a un talent incroyable. Puis je suis vraiment content qu'il performe sur un. Tu sais, c'est de la pression quand même, la Coupe Memorial, surtout à domicile. Mais je suis vraiment content de le voir performer. Puis c'est comme Fred a dit, c'est le meilleur joueur. Puis si Kamloops va en finale, c'est indéniable que ça va être lui, le joueur. Par excellence, de la Commemorial.
OK. Bon, ben dans ce cas-là, on n'est pas trop sûr de savoir qui va gagner. Est-ce que j'en comprends?
Non. On n'est jamais sûr de rien, Yves.
Non, c'est un fait. OK. Fait que j'aimerais ça qu'on parle quand même, soyons un peu Canadien de Montréal, qu'on parle un peu des prospects du Canadien de Montréal actuellement dans la Coupe Memorial. On pourrait commencer peut-être avec Davidson. Chez Jared Davidson, je pense?
Yes. Ouais.
OK. Comment ça se passe de son côté à lui?
Écoute, ben, veux-tu y aller, Sam, ou...
Ben, il connaît un bon tournoi, mais si tu regardes juste ses stats, c'est impressionnant, Jared Davidson, mais il joue tellement avec une bonne équipe et des bons joueurs que ça l'aide beaucoup. Fait qu'il performe quand même bien dans le tournoi. Il a un excellent lancer. Par contre, il ne faut pas être aveuglé par les statistiques, comme je viens de dire. Là. Le gars joue dans une équipe qui est incroyable. Je pense pas qu'il ait le potentiel de jouer dans l'NH. Pour vrai, je pense que c'est un gars de la Ligue américaine qui va être bon, mais il va peut-être jouer une coupe de game, call-up, mais selon moi, ce n'est pas un joueur qui va jouer la Ligue nationale. Mais on ne sait jamais parce qu'il y a du talent. Mais j'aurais aimé ça le voir avec une équipe. Je ne pense pas qu'il y aurait eu le même genre de saison avec une équipe beaucoup moins dominante que la meilleure équipe au Canada, selon moi.
Okay. Puis est-ce que tu rebordes dans ce sens-là, toi aussi?
Ben, écoute, je pense, on a signé, je pense, le défenseur de Jaden Struble au début de la saison, si je ne me trompe pas. Là.
Ouais.
Personnellement, Jared Davidson, je pense qu'il est meilleur que lui. Oui, selon ses stats, encore, on peut comparer qu'il est bien meilleur que Jaden Struble parce que, écoute, lui, il a joué dans la NCAA, il a joué moins de matchs, un niveau de calibre de jeu peut-être meilleur que la WHL, mais Jared Davidson joue dans une équipe vraiment comme Sam dit, loadé. Là. Il est là pour faire des points, puis mais c'est dans le camp d'entraînement qu'on va voir l'année prochaine. Moi, je le vois meilleur que Struble. On a signé Struble. Est-ce que ça a été une erreur? On verra. Là. Parce que les Canadiens ont tellement de défenseurs, des Mayu, des Struble, des Davidson, des Hudson. C'est... Son lot. Tu sais, on ben, dit que la défense des Canadiens, il en manque, mais on en a tellement. C'est que.
Je suis d'accord avec toi.
J'aimerais ça te poser une question.
Vas-y donc.
Avant qu'on est plus loin, moi, de Jared Davidson, il est listé centre. Il n'est pas listé défenseur.
Non, c'est un attaquant.
Je suis un peu fourré.
C'est un attaquant, Davidson?
Parce que là, on parle de Jaden Struble. Là, un petit peu... Ouais, c'est un joueur de centre. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai sur Elite Prospect.
Ouais, c'est un attaquant, mais. Je pense que Fred, ce qu'il voulait dire, c'est qu'ils ont signé Struble, fait que ça enlève une place de contrat pour peut-être, ouais. Je pense que Davidson ne sera pas signé probablement parce que tu ne peux pas signer tout le monde. Mais non. Moi, j'aurais signé Davidson au lieu de Struble parce que justement, la profondeur au niveau des espaces canadiens est quand même très grande. Fait que j'aurais peut-être essayé parce que des joueurs comme Davidson qui arrivent un peu nulle part, c'est un choix de cinquième ronde, ça? C'est
ouais, exact.
Selon moi, je pense que ça va être un bottom six dans le national s'il fait, mais on ne sait jamais ce qui peut arriver. Fait que moi, j'aurais pris une chance sur Davidson au lieu de Struble, mais bon, le CH, je pense qu'il aime bien Struble. Je pense que Kent Hughes, son fils a joué avec ou quelque chose du genre. Fait que ouais. C'est des choses qui arrivent, mais pour Davidson, moi, c'est mon point de vue. Fait que j'aurais pas trop d'attente d'être un fan du Canadien. Là, j'imagine que tu vas me parler de Winbeck, par exemple.
Bon, ben voilà, l'entrée était faite. Winbet du côté des Beats, comment ça se passe?
Ben écoute, vas-y, Frédéric, ça va. Ben, il n'y a pas la meilleure Coupe Memorial qu'il y a eu. Là. La saison a quasiment un point par match en saison puis en playoff. C'est un joueur qui joue les deux sens de la patinoire. Il est intense, il joue au hockey, il finit ses mises en échec. Bon coup de patin, bon lancer, fait des belles passes. Son IQ, il est excellent. Là. Pour un gars de la OHL, pour vrai, c'est probablement le gars qui a le plus gros IQ. Pour les Canadiens, est-ce qu'il va faire la ligne nationale bientôt? Peut-être un gars de quatrième ligne. Mais un gars comme Jared Davidson, comparé à Owen Beck, Jared Davidson, on dirait qu'il est plus prouvé, mais Owen Beck, c'est un joueur plus complet.
OK.
De là, est-ce que les Canadiens vont vouloir avoir plus d'offense ou un joueur de quatrième ligne comme Jake Evans qui joue dans les deux sens de la patinoire? C'est là qu'on va voir, mais je veux dire, Owen Beck, je pense qu'il a remplacé quelques matchs en Ligue nationale déjà, puis il a prouvé qu'il y a eu des bons moments. Je pense qu'il est peut-être pas au moment prêt, mais si les Canadiens veulent prendre une chance, je vais commencer à sa quatrième trio ou dans la Ligue américaine comme dans les deux premières lignes.
Ben, si je fais pas erreur, je pense qu'il faisait partie des dernières coupures du Canadien cette année.
Mm-hmm. Ouais, il a joué rappel d'urgence, je pense, contre les Ottawa. Puis il était aussi rappelé d'urgence avec Team Canada Junior parce que Colton Dack, je pense, s'est blessé. Fait que mais Owen Beck, comme Fred dit, c'est pas un joueur époustouflant comme Stankoven ou un joueur comme ça, mais c'est un joueur qui va tout faire bien sur une patinoire. Puis ça, c'est une des plus grandes qualités que tu peux avoir. Là. Je veux dire, l'intelligence de la glace, ça s'apprend pas. Un lancer, ça se pratique. Un coup de patin, ça se pratique. Mais un IQ hockey, ça se pratique pas. Si tu l'as ou tu l'as pas. Puis là, il l'a. Fait que quand tu as l'IQ hockey, tu peux travailler avec un joueur, ses petites faiblesses. Puis Owen Beck a un excellent coup de patin. Fait que pour un joueur qui peut jouer les deux sens, avoir un excellent coup de patin et un bon IQ, c'est ce que ça prend. Fait que moi, je pense que je le vois comme un centre de troisième trio. Peut-être deuxième trio si ça va extrêmement bien. Mais Owen Beck va assurément faire la Ligue nationale. Par contre, je vois des fans qui sont beaucoup trop hype sur ce gars-là. Là, je veux dire, c'est pas un premier centre. Là. Ce sera pas le gars qui va juste le power play avec Caulfield et Suzuki, mais c'est un gars qui peut devenir un bon centre défensif puis faire les désavantages numériques. Surveiller le gros trio adverse parce que les Canadiens vont jouer contre Ottawa, ils vont jouer contre Toronto qui ont des talents élites. Puis ça va enlever de la pression à Suzuki. Il pourrait prendre toute la pression que Suzuki aurait défensivement, la mettre sur ses épaules. Puis je pense qu'on faut s'attendre, c'est ça qu'il faut s'attendre de One Deck. Faut pas que s'attendre qu'il fasse 80 points par année. Ça, il y a d'autres joueurs qui vont le faire. Fait que moi, mais son tournoi, il est pas si pire pour vrai. On le voit sur la glace. Puis quand tu vois un joueur sur la glace, c'est bon. Si tu n'entends pas parler, c'est là que ça cloche. Mais en même temps, il joue pour les Pates qui sont fait lessiver les deux, le 10 à 1. Tu sais, je veux dire, il a reposé Beck aussi, là, les Pates. Mais j'aime ce que Owen Beck fait pour vrai. Il peut faire mieux. Mais ce soir, je m'attends à un gros match. Ça va être un gros match à Owen Beck ce soir.
Ouais. OK. Puis, si j'écoute bien ce que vous me dites, moi, je me dirais que, tu sais, un gars comme Jake Evans, là, sa santé est so-so. Là,
il est fragile.
Fait que, c'est Owen Beck, c'est un gars qui pourrait challenger pour le poste de Jake Evans, qui est assurément pas un premier centre.
Oui.
Absolument. Avec Jake Evans, je serais stressé pour mon poste. Mais en même temps, Jake Evans, il est juste à la quatrième ligne. Mais Owen Beck, moi, l'année prochaine, c'est à Laval. Je l'envoie à Laval, puis il va y avoir d'autres gars à Laval, comme Amin Heinemann. Laval pour avoir un très bon club. Je le fais jouer à Laval au moins une ou deux saisons. Owen Beck, ça reste un projet, un diamant à polir. Il faut que tu le polisses comme il faut parce que arriver dans les scénarios, trop de bonheur, puis après ça, le remettre dans la Ligue américaine, c'est peut-être pas la bonne façon. Hashtag Code Canini.
Les Canadiens, je pense qu'ils ont aussi. Laval va être, je pense, rempli l'année prochaine. Je pense que les Joshua Roy vont arriver.
Ouais, exact.
Sean Farrell qui a eu une bonne saison aussi à Harvard University. Là. Ouais. Puis Philippe Massard, qu'est-ce qu'on va faire avec lui? Choix de première ronde. Riley Kidney, Gatineau, qui a eu deux saisons de
saison. Je les ferais tous jouer ensemble à Laval, comme ça, il y aurait une chimie qui pourrait se faire pour après être dans le grand club. Ils vont probablement tous monter en même temps. Ouais. Pas tout le monde, parce qu'il n'y a pas des places pour tout le monde, mais ça reste que la Ligue américaine, c'est là que ça commence. Puis c'est un passage obligé pour des joueurs qui sont pas dominants, comme mettons. Il y a beaucoup de monde qui passe par la Ligue américaine, puis c'est pas mauvais de passer par là. C'est pas grave si le gars il est pas bon là. Mais l'important, c'est qu'il soit bon dans 3 ans. Fait que c'est le développement. Le Canadien, c'est là qu'il y a eu de la misère. Le développement. C'est pas le recrutement qui est le problème, c'est le développement.
Puis, tu sais, pour Joshua Roy, je pense que. On a vu qu'il dominait dans la LHGMQ. On sait qu'il n'est pas prêt pour la Ligue nationale parce que je pense que le coup de patin, il n'est pas là. Il est toujours là au bon endroit, par exemple. Ça, c'est un des joueurs, je pense, le gros IQ pour lequel. C'est un gros vol pour le Canadien aussi. Là. Choix de cinquième ronde, je pense, lui aussi. Là. Je pense qu'il va falloir qu'il prouve sa valeur dans la Ligue américaine, lui aussi. Là. Je pense qu'il n'y a pas le choix. Là.
OK. Fait que, on va rester dans la thématique de la Coupe Mémorial. Et du côté de la Coupe Mémorial, ben là, est-ce qu'on croit en nos chances du côté de Québec? Je pense que vous êtes d'accord pour dire que oui, mais que ça peut partir d'un bord puis de l'autre. Fait que c'est un peu vague. Si, mettons, vous me dites, là, on veut que Québec gagne puis qu'on continue la séquence, là, c'est quoi il faut qu'il fasse? On va commencer avec Frédéric. C'est quoi les points majeurs que Québec doit continuer de faire pour la Coupe Mémorial?
Ben, premièrement, continuer. Tout le tournoi, ils ont prouvé que défensivement, les Evenhouse, Komarov, Langlois et les autres, là, je vais les nommer, là, mais je m'en souviens plus. Mais,
Savoie.
Puis, comme ils ont prouvé qu'ils étaient solides. Patrick Roy, son système défensif est excellent à rentrer de la Coupe Mémorial. William Rousseau était solide. On va oublier le match contre les Peach, je crois. Là. C'était juste un faux pas. Là. Selon moi, il n'aurait pas dû être dans les buts. Là. Mais. Si le gardien est en forme, si la défensive bloque les tirs, se sacrifie vers les lancers, bonne première passe, bonne sortie de zone qu'ils ont fait tout le tournoi, les remparts vont gagner haut la main le tournoi. Là. Pour vrai, là, depuis qu'ils ont rentré, je pensais qu'elle allait être dominée vu que la saison a fini directement, puis 2-3 jours après, c'était direction Kamloops. Puis je pensais qu'elle allait manquer de jus. Mais pour vrai. À part ça, pour l'instant, c'est une des meilleures équipes dans le tournoi. Là.
Parfait. Fait que ça, c'est un match qui était surveillé samedi, si je ne fais pas erreur.
Dimanche.
Fait que c'est la Coupe Mémorial. Là. C'est, le,
ouais,
le
c'est match la finale dimanche. Ouais. Puis, right. Je ne suis pas mal sûr que ça va être les Thunderbirds contre les Remparts. Puis moi, j'ai vraiment peur. En tant que fan des Remparts, j'ai peur des Thunderbirds. Je ne pense pas qu'ils vont perdre 2-8 contre les Remparts. Fait que je suis inquiet, mais il va falloir marquer le premier but, je pense, puis mettre la pression sur les Thunderbirds parce que ils peuvent marquer à n'importe quel moment dans un match. Dylan Gunter en fait partie, même s'il n'a pas marqué encore. Le gars, tu laisses seul 3 secondes, 1 seconde en anglais, puis c'est terminé. La bouteille du goaler est envolée, puis il faut recommencer ça au centre.
Je comprends. All right. Ben, écoute, Frédéric, on va rester attentif à ce qui va se passer d'ici à dimanche, puisque dimanche, c'est le grand soir. J'invite bien entendu tout le monde à nous suivre sur le alacoupe.ca parce que tu écris aussi des articles. Tu fais partie de l'équipe LHJMQ, dis-je bien. Ouais. Et en fait, toute l'équipe travaille en ce moment beaucoup par rapport au repêchage parce que c'est un dossier qu'on monte, mais on couvre aussi la Coupe Mémorial. Donc, c'est à suivre sur le alacoupe.ca. Frédéric, un gros merci d'avoir été là. Je te souhaite merci. Une belle fin de soirée.
Bonne soirée, les gars.
Ciao.
Bye.
Alors, de notre côté, la finale de la Coupe Stanley commence samedi, c'est ça?
Samedi soir.
Ouais, c'est ça, samedi soir. Il y a dimanche à la Coupe Mémorial, samedi, ça commence. Fait que yes. La finale de la Coupe Stanley va commencer dimanche. On va suivre ça avec beaucoup d'intérêt. Je sais que ton cœur n'est clairement pas d'un côté et il est très de l'autre. Ouais. On va dire go Bobrovski, je pense. Là.
Yes. Let's go, Bob.
All right, fait que c'est un rendez-vous pour samedi pour le début de la finale de la Coupe Stanley. Sam, un gros merci d'avoir été là. Je te souhaite une belle semaine de hockey. Bonne chance pour la Coupe Mémorial et les Remparts également.
Merci. Bye. Bye.
Et pour vous à la maison, je vous rappelle que ce podcast-là va être disponible en rediffusion et ce, cette fin de semaine sur YouTube ainsi que Spotify. Je vous invite à nous suivre sur nos différentes plateformes puisqu'on est sur YouTube, Twitter, Spotify, TikTok, et Facebook, toujours au nom de À la coupe. À tous les mardis midi, c'est la notif des sportifs animée par Loric Salvaille. Et puis sinon, ben nous, on se revoit à compter de la semaine prochaine. Sur ce, je vous souhaite une très belle fin de soirée et faites attention à vous. Merci d'avoir été là. OK, bye bye.